Je pense que la phrase de l'Europe répond peut-être à la question, c'est unie dans la diversité. Donc en fait, on pourrait parler de la diversité comme un point de rupture et comme une divergence entre les États. Vous voyez, ça c'est le multilocal. Donc en fait, on est à Craponne, on se sent complètement isolé. En fait, on est entouré de personnes. Malgré tout, on est quand même isolé. Et vous allez descendre pour me voir de face ou vous allez rester à côté de moi?
Je veux descendre.
D'accord. Bien. Voilà. Donc, seul au milieu du désert, pour parler de l'Europe. Le paradoxe pour parler de l'Europe, c'est quel que soit le pays, que ce soit en France, en Italie, à Chypre ou en Grèce, on est toujours seul. Hein. Oui, c'est vrai. Je veux dire, chacun des pays considère qu'il s'est fait avoir par tous les autres. Et moi, je suis du côté de ceux qui disent que non, c'est pas vrai, on les a eus aussi. Donc, je crois que la divergence provient du fait qu'on a l'impression d'avoir été exploité et on ne se rend pas compte que tout le monde dit la même chose. Vous voyez ? Donc ça, c'est un grand principe de la théorie des jeux, c'est que si tous les partenaires d'un jeu considèrent qu'ils ont été exploités par tous les autres, c'est que le jeu est équilibré. Sinon, il y a forcément quelqu'un qui n'a pas été exploité et qui est le dominant. Or là, vous pouvez faire le constat, dans l'Europe des 27, il n'y a pas de problème. Chacun considère que les 26 autres l'exploitent. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, peut-être que ce n'est pas une bonne approche pour vous de parler de l'Europe, mais vous voyez, le slogan de l'Europe, c'est « Unis dans la diversité ». Donc, je vais essayer de vous parler aussi bien de l'union que de la diversité, et de vous faire comprendre que, si c'est possible, enfin, si vous n'êtes pas trop réfractaire à cette idée, que c'est parce que justement il y a une diversité que l'union vaut la peine d'être faite. Parce que beaucoup de personnes sont contre le modèle américain. À mon avis, ils ont raison, mais ils pensent que l'Union européenne est un modèle américain. Donc, d'un côté, ils sont contre quelque chose qui existe. De l'autre côté, ils sont contre quelque chose qui n'existe pas, mais ils ont l'impression que ça va être comme celui qui existe. Alors, des fois, ils le critiquent parce qu'ils trouvent qu'il ressemble trop, et des fois, ils le critiquent parce qu'ils trouvent qu'il ne ressemble pas assez. Donc, vous avez vu l'exemple caractéristique, je trouve, c'est la Constitution européenne. Vous avez remarqué qu'il y a des gens en France qui ne l'ont pas votée parce qu'elle était trop anglaise. Et il y a un pays comme l'Angleterre qui trouve qu'elle n'est pas bonne parce qu'elle est trop française. Alors, je ne sais pas si c'est le syndrome des îles anglo-normandes, mais il faut bien que ça appartienne à quelqu'un. Alors peut-être que ça appartient aux deux sans qu'on s'en rende compte. Donc le problème en fait de l'union, je crois que c'est l'intersection. Ça peut paraître paradoxal, l'union ne consiste pas simplement à fédérer des éléments hétéroclites. Il faut aussi voir si l'intersection n'est pas vide. Et certaines personnes pensent que l'Union européenne a pour seule intersection l'aspect économique. Donc on va essayer de mettre en évidence que ce n'est pas simplement ce noyau-là qui est important dans l'Union européenne, qu'il y a aussi des extensions. Et donc on peut voir déjà dans le traité de Rome, donc depuis 1957, je commencerai donc par un petit historique pour le traité de Rome, pour que vous situer un peu. Ensuite, on parlera avant tout du ministre des Affaires étrangères, puis on s'enfoncera dans la Charte des droits de l'homme du traité, et enfin avec la Cour européenne des droits de l'homme. Vous pouvez intervenir au milieu de la conférence, on est suffisamment peu nombreux pour que ça soit vivable, peut-être même enviable, donc ne vous gênez pas. Juste, je vous préviens, vous pouvez poser n'importe quelle question, je répondrai toujours à ma façon. Voilà. Donc, si vous avez des questions tordues à me poser, mais vous pensez que la réponse risque d'être plus tordue, ne la posez pas, parce que je répondrai. Voilà. Donc, le point de vue, c'est que si on regarde déjà les principes, c'est-à-dire que si on regarde l'article 1 à 8 des principes du traité de Rome, on pourrait remarquer certains points. Donc je vais vous lire certains points pour que vous rendiez compte. Donc l'article 3 vous dit, dès le départ, le point A, c'est l'élimination des droits de douane. On est en 1957. Parce qu'il y en a qui ont découvert en 2005, pour ne pas dire en 2004, qu'on avait un problème avec les douanes. Bon. Alors c'est pas un problème, ça s'appelle une solution. Il suffit de savoir, enfin, toutes les personnes qui sont allées un peu à l'étranger ou les problèmes de change que ça peut représenter et le temps, la perte que ça représente en termes même financiers, vous comprenez bien qu'un espace libre est meilleur. Mais déjà à l'époque, donc vous voyez aussi qu'il y a le point B qui concerne la politique commerciale, donc ça c'est un peu naturel puisque c'était la CE, la Communauté européenne, économique européenne, mais on a déjà donc la libre circulation des personnes. Donc c'est très important de constater que c'est déjà dans le traité de Rome. Certaines personnes considèrent que, on en parlait tout à l'heure, vous avez entendu à un moment dans votre vie, pas si lointaine que ça, l'argument du plombier polonais. Il faut bien vous rendre compte que l'argument du plombier polonais ne tient pas la route, parce que d'abord la Pologne a intégré l'Union européenne en 2004, au 1er mai, et que, en fait, cet argument, s'il était utilisable, il serait contre le traité de Rome, puisque déjà à l'époque, on avait la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Donc, politique agricole commune, très importante donc, pour la France. On a accès à des documents secrets de l'époque, entre guillemets, qui ne le sont plus maintenant, où on voit que la France avait fait énormément d'efforts pour faire passer ses idées dans le domaine de l'agriculture, et avec succès d'ailleurs. Donc, politique de transport commune, on a aussi un point de vue un peu étrange, c'est concurrence non faussée dans la communauté. Donc, en fait, déjà à l'époque, on essaie de se prémunir des problèmes concurrentiels au sein de l'Union européenne, sans passer simplement par les points techniques, mais vraiment en pensant que c'est une véritable nécessité. Convergence des politiques économiques. Donc ça c'est un point important, on ne le met pas assez en avant. Il ne s'agit pas simplement de faire une Union européenne avec 6, 9, comme M. Denisou vous l'a dit tout à l'heure, peu importe le nombre, mais il ne s'agit pas simplement d'agglutiner des personnes, il faut voir s'il y a une convergence. Et donc ça c'est très important, quand vous avez conscience de la diversité de l'Union européenne, d'être déjà, sur ce qu'on appelle nous en stratégie, un mix stratégique, c'est-à-dire des convergences stratégiques qui vont dans le même sens. Donc ça, c'était mis en évidence par la convergence des politiques économiques et aussi, plus important encore, je trouve, le rapprochement des législations nationales. Ça, c'est le point H. Je fais exprès de vous dire les points de référence pour pas que vous croyiez que je vous berne et que je vous parle d'un plan B, C, E, etc. Enfin, il suffit de lire le texte. Donc, on a au point I le Fonds social européen, le point J la Banque européenne et l'Association des pays et territoires d'outre-mer au point K. Donc, pourquoi ces points-là? Pourquoi en parler? Parce que vous voyez qu'en fait, ils ne sont pas tous concernés seulement et uniquement par l'aspect économique. Et on est en 1957, c'est-à-dire qu'on est après l'après-guerre, une situation économique dans l'Europe qui ne s'appelle pas encore l'Union, qui est catastrophique, on essaie de relever le niveau de vie, et donc on a conscience de ces problèmes, et dans ce cadre-là, on crée un noyau, je dirais donc économique, qui est très important, mais ce noyau, il a déjà des extensions qui ne sont pas strictement d'ordre économique, et qui prévoient donc l'enrichissement de ces structures. Donc, on est dans une situation, Umberto Eco, un grand Européen lui aussi, appellerait ça tortura aperta, donc une structure ouverte qui permet d'être élargie sans perdre sa nature ontologique. D'accord ? Donc en fait, on a un point de vue ontologique, c'est-à-dire qu'on a une communauté européenne qui ne se contente pas de s'occuper du charbon et de l'acier, qui prévoit son avenir. Et c'est intéressant parce que vous voyez, en fait, les transformations dans le traité sont déjà prévues, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a une phase de transition de 12 ans. Et moi, comme je regarde toujours les textes avec beaucoup plus d'attention que la normale, pour des raisons professionnelles, vous remarquerez que le traité de Rome vous dit, en plus, qu'il y a un délai maximum. C'est-à-dire qu'il vous dit, vous ferez ça en 12 ans, la transition, trois étapes, mais les deux L'étape 2 et l'étape 3 peuvent être modifiées, être plus longues. Par contre, ça ne devra pas à l'ensemble dépasser 15 ans. Et en général, puisque vous avez eu l'occasion de lire des traités, on en parlera, faites toujours très attention aux dates butoirs. Ne faites pas attention aux dates d'estimation. C'est-à-dire, là, il fallait faire attention aux 15 ans et pas aux 12. Aux 12, c'est l'estimation, c'est si tout va bien. Dans ce domaine, ça ne va jamais bien. L'avantage, quand on le sait, c'est qu'on s'y prépare. Et donc, quand on sait que tout va mal, tout le temps, eh bien, on prévoit des solutions qui sont plus robustes. Et c'est pour ça que le traité de Rome, le fait qu'on puisse en parler maintenant, démontre sa robustesse de facto, puisqu'on en est à 50 ans maintenant, donc avec des modifications ultérieures, bien sûr, on en parlera. Mais ce que je veux dire, c'est que sa base était conceptuellement vraiment révolutionnaire pour l'époque. Peut-être que pour des spécialistes, il a un petit aspect vieillot maintenant, mais il faut bien vous rendre compte qu'aucune des modifications qui a été faite ne l'a remise en cause véritablement. Elle l'a simplement enrichie. Donc je trouve que c'est toujours très touchant de voir, monsieur Lézon nous a mis une diapositive, de voir donc ces pères de l'Europe, même si, comme on disait au repas, moi je m'intéresse beaucoup plus aux arrière-grands-pères de l'Europe, mais les pères de l'Europe ont fait beaucoup de travail dans une situation qui était particulièrement difficile, certainement peu enviable, et je trouve quand même qu'ils ont réussi. Donc, nous, dans notre ensemble, on est les enfants gâtés. C'est-à-dire que on nous a fait le cadeau, donc ce concept, et donc évidemment, l'art de l'enfant gâté, c'est de ne pas être content. Hein? Après tout, pourquoi on serait content? C'est pas écrit dans le traité de Rome. Il n'y a pas écrit que dans 50 ans, les gens de l'Union européenne devraient être contents. Donc nous, on cultive notre mécontentement. Je trouve que c'est très bien, Voltaire aurait fait de même. Vous vous rappelez que Voltaire a écrit presque 6000 lettres, et presque sur les deux tiers, il dit qu'il va mourir bientôt. Et moi, ce que je vois avec les Européens, vous en faites partie aussi, vous n'êtes pas exprimé encore, mais je vous attends, c'est que tout le monde se plaint, mais tout le monde reste dedans. Et je pense que c'est un bon point de vue, parce qu'il faut se plaindre tout le temps pour que les choses évoluent, mais il ne faut pas non plus se mettre dans une position où on se dirait, c'est vrai que... Parce que vous savez, dans ce traité-là, c'est écrit comment faire quand un pays veut sortir de l'Union européenne, vous savez. C'est écrit. Et la procédure à suivre. Donc, si vraiment on est si peu content, bah, il y a juste à lire la procédure. Mais moi, ce que je vois, c'est que les pays qui sont rentrés dans l'Union européenne depuis 50 ans, ils ne partent pas. Mais ils ont de plus en plus d'exigences. Et ça, c'est très bien. Je pense que vous êtes aussi des adultes, que vous avez des enfants, et vous pouvez vous rendre compte que plus c'est facile la vie de vos enfants, plus ils ont d'exigences.